dirait des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Il y a des artistes dont on se dit que s'ils sont sur cette terre, c'est pour vous donner la pêche, pour se réveiller en fanfare au son d'une pop vitaminée, pour vous regonfler après une journée épuisante ou pour s'ébattre en toute liberté dans les méandres de l'existence. À travers ses mélodies glamour et sucrées, ses rythmes exubérants, sa positive attitude, Mika est assurément de cela, car même s'il a lui aussi ses fêlures et ses soucis, sa voix et sa musique ont ceci de magique, elles font du bien. Nous l'avons rencontré il y a quelques jours de cela, dans un grand hôtel de Paris. Il nous a présenté son nouvel album My Name is Michael Holbrook, disponible chez Barclay, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Mika.
Bonjour.
Tiny Love, c'est la chanson qui ouvre ce nouvel album avec ces mots « My name is Michael Holbrook, I was born in 1983 ». Pourquoi ce besoin de réaffirmer, de clamer haut et fort votre identité ?
Ah, de la réclamer, dans un sens. C'est pas juste une question de clamer mon identité, mais c'est un petit peu de la réclamer après une carrière de 12 ans, après... toute la pression de la vie que cette industrie apporte, tous les challenges que cette industrie aussi peut apporter, où le plus grand risque, c'est dans un sens de ne pas perdre cette envie, cet amour pour la musique. Je trouve que je me suis retrouvé après 12 ans dans une situation où mon opinion et mes sentiments vers l'industrie du business avaient contaminé mon amour pour la musique. J'ai dû faire une sorte de séparation. Pour faire une séparation, il faut commencer avec soi-même. Il faut faire un reset sur ce qu'on est.
Un redémarrage, repartir à zéro.
Exactement.
Tout oublier ?
Pas tout oublier, mais se débarrasser de certaines valises.
Qu'est-ce qui était trop lourd, Mika ?
Ah, tout. Cette idée que quand on commence, on fait de la musique parce que tout est nouveau. Parce que pour moi, ça m'a aidé, et je pense que tout le monde fait de la musique dans une sorte de bulle. On l'a fait chez nous, on l'a fait avec des amis, et ensuite, tout d'un coup, ce qui commençait par être quelque chose qui appartenait seulement à nous, et je suis en train de parler de tous les auteurs, compositeurs, interprètes, à un certain moment devient quelque chose qui est jugé, qui a des conséquences, des conséquences qui peuvent être positives, commerciales, et aussi des conséquences où il y a des gens qui peuvent être aussi déçus. Mais c'est absurde parce qu'à la fois, si on est en train de faire quelque chose qui raconte des histoires personnelles et ça a des conséquences commerciales. Donc, c'est un drôle de mélange. Et à part ça aussi, cette idée que franchement, moi j'ai commencé ma carrière pas avec Life in Cartoon Motion, mais si je dois être très honnête, l'idée de devenir Mika, dans le sens Mika avec un K, eh ben ça a commencé quand j'avais 8 ans, parce que c'est là où j'ai commencé à être payé la moitié de l'année. J'allais pas à l'école et je chantais professionnellement, et là ça a changé, ça a commencé à développer ce rapport, moi Mika. J'ai commencé à me séparer de la personne qui était sur la scène. Et pour pouvoir envisager un futur pour moi-même aujourd'hui à l'âge de 36 ans, et aussi pour pouvoir rester un auteur honnête, transparent, sans complexe, il fallait avoir cette redécouverte de moi-même, et aussi se me décomplexer encore plus pour pouvoir me livrer avec encore plus de transparence dans mon écriture. Ce qui veut pas dire que je me vends. En fait, c'est l'inverse. J'avais plutôt cette idée que je pouvais me protéger avec mes albums. Mais je réalisais que si je me protégeais avec mes albums et si j'étais pas totalement honnête dans mes chansons, c'était du gaspillage.
Ce reset, pour reprendre le mot que vous avez employé il y a un instant, Mika, vous l'avez trouvé, ce reset, en remontant sur les traces de votre père aux États-Unis, dans l'état de Géorgie, dans le sud des États-Unis. Vous nous racontez ?
Ouais. Alors, j'étais entraîné par ma mère. J'étais formé par ma mère. J'étais dressé comme un sorte de cheval de bataille ou un cheval de concours par ma mère à partir de l'âge de... J'étais très jeune. Évidemment, avec tout cela, ma mère a pris beaucoup de place. Et j'en suis extrêmement reconnaissant, c'est normal, comme beaucoup de garçons, et beaucoup de filles, mais surtout des garçons, et spécialement des garçons qui font ce job. Et à un certain moment, je me suis rendu compte que il y avait plein de choses qui se passaient en même temps dans ma vie. Pendant que le jour où j'avais la période de l'écriture de cet album, il y avait plein de choses qui se passaient. J'avais perdu 5 personnes qui étaient proches à moi. J'avais perdu ma grand-mère, des gens qui étaient très présents dans mes textes aussi. Et là, j'ai commencé à réaliser que si je devais envisager un futur, je devais aussi envisager un futur sans personne. Que moi, je devais comprendre qui j'étais des deux côtés de mon identité pour pouvoir m'envisager aussi comme un adulte de 60 ans qui continue à écrire des chansons. Donc, j'ai décidé de redécouvrir une partie de ma vie que j'avais un petit peu laissée à part. Ma mère, libanaise, elle avait pris beaucoup de place comparée à mon père qui est WASP, qui vient avec une famille qui vient de Savannah, Georgia, plutôt en discrétion. Donc un drôle de mélange, mais qui va très bien ensemble. J'ai décidé de commencer avec son identité pour comprendre d'où je viens, 50% de qui je suis que je connaissais pas du tout. Je suis allé à Savannah, Georgia, et là-bas j'ai visité le cimetière de Bonaventure, qui est un cimetière assez mythique, et là j'ai trouvé tout un endroit qui était dédié à la famille de mon père. Et je vois mon propre nom civil écrit sur des tombeaux, moitié effacé par le temps. Et ma réaction n'était pas du tout macabre, c'était très Tim Burton. J'ai adoré cette idée que je venais de quelque part que je connaissais pas.
Et ça, ça a été fécond.
Ah ouais, mais ça m'a provoqué totalement, parce que je me suis dit, mais c'est presque pervers de voir ton nom sur un tombeau, et tu dis, ah, en fait, je compte pour rien, et tout ça, ça compte pour tout. C'est un drôle de mélange des deux. Et ça m'a inspiré beaucoup, et je me suis dit, ok, peut-être, my name is Michael Holbrook, je l'ai jamais assumé. Chaque fois que quelqu'un m'appelait Michael, ça me donnait un drôle de sentiment dans mon estomac, comme si c'était pas moi. Et c'est quelque chose qui arrive seulement dans sur les factures d'impôts ou des amendes et des contraventions.
Là, c'est plus positif dans le
genre. Et c'était un petit peu pareil, mais c'était intéressant quand même. Donc là, j'ai eu l'idée d'utiliser mon nom civil comme un sorte de nom de plume pour redécouvrir et pour réétablir un lien avec mon nom d'artiste.
Cette chanson Tiny Love ouvre l'album et elle la clôt aussi dans une nouvelle version qu'on écoute tout de suite.
My name is Michael Holbrook. I was born in 1983. No, I'm not losing my mind. It's just this thing that you do to me. You get me high on a tiny love. You get me high. And if it all goes bad and our love sets like the sun, just this one, you get me high with tiny love. You get me disappear. You can't forget that it was here.
Et les deux voix féminines qu'on a entendues, l'Amika, ce sont celles de votre maman, Vanny, ouais, et de votre sœur Paloma. Vous avez voulu faire un album familial ?
Non, c'était le moment. C'était pas une intention au départ, c'est juste ce qui s'est passé. Je me suis rendu compte que si je racontais mon identité, de nouveau, mon identité d'aujourd'hui, donc une personne qui a évolué pendant ces 12 ans, c'était important aussi de faire des portraits des gens qui étaient autour de moi. Et j'ai eu cette idée à la fin où je me suis dit, pourquoi est-ce que c'est toujours moi qui est en train de parler ou chanter de les histoires de ces personnes-là? Pourquoi est-ce que ça serait beau, ça serait un beau geste, si à la fin de l'album, les vraies personnes reprennent la parole? Et donc, même si c'est juste des petits moments, mais juste le fait d'entendre des voix qui appartiennent au sujet des autres chansons, eh ben, j'ai jamais entendu faire ça. C'est un truc que souvent on a dans des films, mais c'est des films qui sont joués par des personnages. Et là, c'est l'inverse. C'est assez cinématographique, mais c'est des vraies personnes qui sont en train de parler de leur propre vie, qui reprennent la parole à la fin d'un album où il y a quelqu'un qui est en train de raconter leur histoire. Et là, je me suis dit, pourquoi pas? Dans un monde où on est dans un monde de Spotify et de Deezer, qui est magnifique parce que ça nous donne beaucoup plus d'autonomie. C'est bien. C'est probablement pour ça que quelqu'un qui prend autant de risques dans ses chansons, d'un point de vue commercial, ou dans un endroit comme les États-Unis où j'ai jamais eu un tube, à la radio par exemple, je peux vendre et être sold out dans toutes mes tournées. Parce que on existe dans un monde digital, mais il y a un désavantage. Et le désavantage, c'est que on est fragmenté. Nos histoires, ce qu'on cherche à raconter, eh ben, c'est des petites pilules qui sont réduites à 3 minutes 30, mais la vérité, c'est que souvent, les gens écoutent 45 secondes. Et dans ce contexte, dans ce panorama d'aujourd'hui, moi, j'ai voulu prendre un sorte de contre-pas et dire, OK, eh ben, moi, je vais totalement vers l'inverse. J'écris quelque chose qui est un voyage qui dure 55 minutes. Et si vous vous lancez dedans, très bien. Sinon, je pense que la force émotive qui est chargée, même discrètement dans certains titres, pourra quand même survivre et communiquer dans un monde comme celui d'aujourd'hui.
Oh Paloma, the skies have not been kind to you. Oh Paloma, to weather the storm you'd painted blue. In your struggle, living life like there's nothing wrong. We didn't even notice, all we heard was the morning song. Until the sky fell into pieces, the night our life fell into pieces too. Try to fly against the wind, even with a broken wing. Fell into pieces. My Paloma, where is a broken dove to go?
Paloma, c'est sans doute. Tout l'album est intime, mais c'est sans doute la chanson la plus intime de toutes, Mika. La plus poignante aussi. Vous pouvez nous dire qui est Paloma, c'est votre sœur.
Paloma, c'est ma sœur. C'est ma deuxième sœur. Donc on est cinq dans la famille. Il y a Yasmine, Paloma et ensuite moi. Et Paloma a survécu, c'est important de le dire, elle a souffert, mais elle a survécu à un accident qui est lié aussi à un handicap qu'elle a depuis sa naissance, où son côté gauche a été enfaiblé, on peut dire ça, endommagé. Donc elle est faible du côté gauche. Ce qui représente un grand challenge. Comme beaucoup de gens qui ont une palsie ou un truc pareil, c'est toutes les choses, c'est presque difficile parce que les choses qui sont simples deviennent compliquées. Et ensuite, il y avait beaucoup de problèmes qui étaient associés à ça. Cela dit, ça a limité son indépendance. Elle est plus âgée que moi, elle avait moins d'indépendance que moi. Elle avait beaucoup de négativité par rapport à cette chose-là. Elle souffrait beaucoup, beaucoup en silence. On n'était pas au courant, la plupart de sa vie, de la douleur avec laquelle elle était en train de vivre tous les jours de sa vie. Souvent, si elle n'en pouvait plus, elle se cachait et elle pleurait en cachette. On l'a jamais vue pleurer. On disait toujours que c'était la plus forte, en fait. Cela, ça l'aidait pas. Ça l'enfermait encore plus dans sa chambre, encore plus en cachette. Finalement, elle prend son indépendance et elle dit « Ok, je prends mon appartement ». y avait beaucoup de résistance de la part de la famille et de la part de mes parents, mais quand même, ils ont reconnu qu'il n'y avait pas de choix à ça. Voilà. Elle trouve un appartement presque dans le grenier, dans un bâtiment londonien. C'est le soir de la crémaillère de son appartement. Elle est en train d'inviter avec deux amis, deux copines, qui sont super sympas. Et j'y vais et je remplis son appartement avec des fleurs blanches, partout, des centaines. Je me suis dit, je vais faire un geste extravagant pour fêter cette indépendance finalement s'offre à cette femme qui n'est plus une fille. Elle n'a jamais dit, c'était pas une fille, c'est une femme. Donc j'y vais, tout se passe bien. Je rentre chez moi, j'habite à 250 mètres de sa maison, son appartement. Et à 4 heures du matin, elle a un accident. Elle est en train de fumer une cigarette. Le niveau de la fenêtre est pratiquement illégal parce que c'est en dessous du genou. Et comme personne ne savait qu'elle fumait, elle fumait en cachette. Donc elle avait sa porte fermée. Elle tombe du quatrième étage. Elle est attrapée par les barreaux qui sont au niveau de la rue. Et là, elle réveille le voisin qui habite dans le sous-sol. Ils viennent me chercher, ses copines avec qui elle habite. Elles viennent me chercher et j'y vais en courant. Et dans la rue, sans chaussettes, sans juste dans mes caleçons, je vois ma sœur empalée sur des barreaux. Elle a survécu, mais j'ai dû préparer tout le monde parce que tout le monde était autour du monde. Donc c'était le matin de l'anniversaire de mon père. Il avait 60 ans ce matin même. Il pense que je suis en train de lui réveiller. Il était à Bahreïn parce qu'il travaillait là-bas. Il pense que je suis en train de lui réveiller pour lui dire qu'on est à l'aéroport. Donc il me dit j'arrive. Je dis non, ne viens pas. En fait, c'est toi qui dois venir ici. Je t'explique pourquoi et calme-toi et c'est ça ce qui se passe. Mais préparez-vous parce que c'était très compliqué. C'est une histoire que j'avais cachée dans mes bottes. On pense qu'on peut s'en débarrasser, mais on peut pas s'en débarrasser des choses comme ça. Et tout le monde a des histoires comme ça. Et alors un matin, je rentre et je me mets au piano et j'écris « Oh Paloma, the skies have not been kind to you ». Et bam. Et là, je réalise qu'on peut retrouver la beauté même dans des choses qui sont pénibles.
Oui, parce que la chanson, Mika, elle est pas du tout dramatique.
Non, il n'y a pas de pathos.
Elle est pleine d'espoir.
Mais exactement, mais même dans l'album n'est pas triste. L'album précédent, No Place in Heaven, était beaucoup plus mélancolique. Celui-là fait danser. En fait, là, on vient d'entendre deux chansons qui sont pas dansantes, mais le reste fait danser.
Oui, mais justement, est-ce que vous voyez la vie comme un cartoon, comme un dessin animé? Est-ce que vous voyez la vie en technicolor,
Mika? Je vois la vie en technicolor, mais pas en cartoon, parce que cartoon, ça veut dire banaliser les choses et les simplifier à des couleurs primaires.
Tandis que le technicolor, ça fait rêver.
Le technicolor, ça a énormément de nuances et ça a énormément de psychédélie. Pas de folie. Peut-être la folie, mais c'est pas bête. La psychédélie, elle est complexe. Elle est aussi dark qu'elle est joyeuse. Et je trouve que ça, c'est la manière qu'il faut confronter la vie et qu'il faut la vivre. Il faut l'accepter comme ça.
Et donc, l'artiste que vous êtes se sent comme une mission, le mot est peut-être un peu ronflant, mais tout de même, justement, de réenchanter le monde, de faire rêver les gens, de leur donner de l'espoir, de leur faire voir, comme dirait Edith Piaf,
moi, je pense
la vie
pas,
en rose ou en technicolor.
Moi, je pense pas à les gens. Hein. Moi, je pense juste à survivre moi-même et je pense à ma famille. Mais je partage dans le contexte de ma musique. Mais cela dit, c'est avec cet album-là, comme c'était tellement personnel, c'était important quand même de clarifier, d'être clair avec certaines choses. Donc j'ai fait quelque chose que j'ai jamais fait, raconter des histoires comme ça d'une manière très publique. Je le fais pour encadrer aussi les sujets pour qu'ils ne soient pas déformés ou tordus à travers le regard des autres, et spécialement dans les médias. Donc mettre les choses et les expliquer d'une manière très claire, c'est important de le faire quelquefois. Et après, ch'toum, il faut laisser la musique parler, parce que sinon ça devient trop.
Et bien, on va laisser la musique parler. Light brown skin, lips like Campari, and words like soda. Can I come over? Just let me in, I wanna go. Are blinding, the sun keeps shining. If I could, I know where I'd be. In a little town in Italy, Sanremo, Mika, notre invité aujourd'hui dans VMDN sur RFI à l'occasion de la sortie de son nouvel album My Name is Michael Holbrook chez Barclay. Sanremo, on le sait, c'est en Italie, pas très loin de la frontière française. Cette chanson, c'est un clin d'œil à une ville, sans doute. C'est aussi une sorte d'hymne au farniente, à la Dolce Vita. Est-ce que ouais. Carpe Diem, ce pourrait être votre devise, Mika?
Non. Je suis pas très carpe diem.
Ah bon? Pourtant là, ouais, en vous écoutant, on vous imagine avec un Campari sur les bords de la piscine, en train de se dire...
Vous avez pas vu le clip, hein?
Ah non. alors expliquez-nous, on est à la radio en plus, on n'a pas les images.
Premièrement, ça n'a rien à voir trop avec la ville. C'est une ville que je connais, c'est la première ville que j'avais connue en Italie. On allait à Villeneuve-Loubet quand on habitait à Londres, on passait les vacances à Villeneuve-Loubet à la maison de ma tante. Et quand il y avait, comme dans toutes les familles, quand inévitablement il y avait des énormes disputes qui s'explosaient, on s'échappait dans la Toyota Previa anglaise et on allait vers l'Italie, où les choses étaient un peu plus simples pour une grosse famille, pour notre bande. Pour les 5 enfants, pour mes parents, pour ma grand-mère, pour cette troupe, cette caravane qui arrivait, ils étaient un peu plus tolérants que les sud de la France. Je me souviens toujours, moi j'avais 14 ans et je regardais tous ces gens qui étaient tellement à l'aise, ces jeunes hommes, ces jeunes filles qui étaient tellement plus cool, qui étaient tellement plus stylés. Et moi j'étais dans mes shorts Gap avec ma chemise blanche, bien mis à l'intérieur. Et j'étais moins mince que je suis aujourd'hui. Et dans la chaleur, moi, eux, ils étaient en train de courir partout. Ils étaient vraiment tellement beaux et suaves. Et moi, je transpirais et j'avais tellement chaud et j'avais les jambes qui me grattaient parce qu'ils étaient en train de se frotter dans la chaleur. Donc, dans ce malaise, moi, je me suis dit, c'est ça ce que je voulais évoquer. Dans la chanson, et vous l'écoutez, ça, vous allez jamais imaginer ça.
Ah bah non, effectivement.
Mais voilà la différence entre les images que moi j'ai dans la tête et ce qui sort. Et donc, il y a toujours plus, ça vient toujours de quelque part d'autre. C'est comme si c'est un truc qui n'existe pas. C'est pour ça qu'il y a ce côté un petit peu carte postale, Patty Page, Old Cape Cod. C'est cette bulle, c'est comme une sorte de moi j'appelle ça pour moi les chansons sont comme des petits vous savez quand vous allez dans un café, ils ont des petits sachets de sucre.
Oui.
C'est comme ça, c'est un petit sachet de sucre.
Ah, le sucre, c'est intéressant ça. Vous êtes un chanteur sucré?
Non, Mika. Très amer.
Ah. Mais l'amertume et le sucré, ça va bien ensemble.
Ça va très bien ensemble. Exactement pourquoi le sucré salé, c'est tout ce qu'il faut.
Il n'y a pas de chanson en français sur ce nouvel opus. Il y en avait, sur certains albums précédents, sur The Origin of Love, par exemple. Bon, Elle me dit, aussi, qui était en français. C'est le hasard qu'il n'y ait pas de chanson en français sur cet album. Si, cet album si personnel, comme on le disait.
C'est l'incarnation, la première incarnation de cet album, parce que comme on sait aujourd'hui, les albums sont pas des choses qui restent figées, ils vont évoluer, donc probablement, il y aura une autre version de l'album qui sortira, parce que dans le temps qu'on est en train de vivre, je pense que les albums doivent évoluer pendant presque un an et demi, deux ans. When I hear that sound, I know what's coming around. 39 degrees, too hot for the bees. The grass is turning yellow, streets are slow and mellow. The faucet keeps on tripping and the clock it keeps on ticking. Is laughing with its shiny red blue teeth.
Et la température est montée d'un cran là sur RFI avec Ice Cream, un nouvel extrait de votre nouvel album. Mika, c'est une chanson pour draguer, c'est une chanson pour séduire, c'est une chanson pour faire l'amour, peut-être un peu les deux.
Un peu les quatre. C'est parce que en écrivant des autres choses, comme on l'a abordé au début de l'interview, des choses assez lourdes. Et ces choses qui sont plutôt lourdes, Eh ben, ça m'a libéré. Et j'ai pu aussi me livrer d'une manière qui est beaucoup plus charnelle, sensuelle, sans complexe, sur un album comme ça, parce que j'avais fait aussi mes devoirs et je me suis débarrassé de certaines choses et boum, j'ai au lieu de trimballer certaines valises, le moment où je les ai laissées tomber, eh ben, tout d'un coup, je me suis trouvé un peu plus agile. Et dans cette agilité se trouve cette sensualité et ce côté. Je me suis rendu compte qu'en fait, ce plaisir de mettre le désir et le côté, la sexualité dans la chanson, dans la pop. Je trouve que la pop aujourd'hui, moi je fais un truc qui est un peu étrange. Je travaille dans la pop, elle est dansante, elle est colorée, elle est mélodique, mais en même temps, si vous lisez les textes, il y a ce contraste, parce que je cherche à vraiment, je dis que c'est possible aujourd'hui dans la pop de vraiment raconter des histoires. Les histoires et les messages, c'est pas juste pour le facteur. Et c'est pas juste pour mettre dans les lettres. Et je trouve que aujourd'hui, on vit dans un moment où la pop a été extrêmement censurée, presque désexuée. Et dans les images, on a des images qui sont extrêmement sexuelle, sensuelle, mais dans les textes et dans les sons, pas trop. Cela dit, dans l'R&B, beaucoup plus. Alors je me dis, mais
comment vous expliquez ça?
Je sais pas. Je pense que on a eu un grand changement et on peut confondre très facilement la culture pop avec l'aspect populaire. Et venant de moi, c'est drôle parce que moi, je suis quelqu'un qui a pas peur de toucher les deux. J'ai fait une émission télé sur TF1 pendant des années et c'est très populaire. Mais je l'ai jamais fait en parlant de le populaire. Je l'ai fait en parlant moi-même. J'ai gardé ma voix. Et je disais des trucs, je parlais de plein de différentes choses. J'ai jamais pensé à être accessible. Je m'en fiche de l'accessibilité. Totalement. Je trouve qu'on peut toucher les deux, mais quand même, dans l'écriture, dans la chanson, il faut rester totalement fidèle à nos propres racines. Mes racines, c'est la musique pop des années 70, 60, 80, début des années 90. Là, on est en train de parler d'une pop beaucoup plus warholienne. Ça, c'est la pop culture. Pop popular. Il y a une différence entre les deux. Ensuite, on regarde et on voit dans un changement dans la pop vers la fin des années 90, où c'est devenu presque plutôt la commercialisation de la pop plutôt que la pop culture. Et dans les années 2000, ça s'enforce encore plus. Et
donc là, il s'agit de réconcilier les deux.
Ouais. Et quand je pense à mes départs aussi, je me suis retrouvé. J'étais pas reconnaissant de cette chose que maintenant je reconnais beaucoup. J'étais à Londres. J'écrivais de la pop qui cherchait à être différente. Et j'étais pas conscient du fait qu'on était dans une sorte de petit club. Moi, j'étais en train de lancer mes choses dans des showcases où je présentais en même temps que Lily Allen avec son premier album et Amy Winehouse. Et il y avait Adele qui était là-bas, qui faisait les premières parties. Un petit club de gens qui ont cherché à vraiment faire de la pop avec nos propres couleurs. Je me souviens toujours qu'on disait toujours qu'on s'en foutait de la réaction des gens par rapport à de ce qu'on était en train d'écrire. C'est bizarre maintenant de réaliser que en fait c'était un club assez particulier.
Mais là, quand on écoute cet album, on pense alternativement à George Michael, on pense à Prince, on pense à Freddie Mercury, même Michael Jackson peut-être.
Mais c'est des couleurs qui brûlent, c'est là où il y avait vraiment des... C'est la pop était romantique, elle était dangereuse, elle était sexy, elle était intime, et à la fois, elle était joyeusement trash dans certains propos. Mais pas trash dans l'intention commerciale, mais plutôt trash dans l'intention. Si on va parler de sexe, eh ben on va parler de sexe. Si on va s'amuser avec la sensualité, on y va à fond. Et ça c'est pour moi, c'est presque comme un temps qui est dur à trouver aujourd'hui dans la pop d'aujourd'hui.
Et donc c'est dans le passé qu'il faut aller se ressourcer pour pouvoir à nouveau inventer.
Je trouve qu'aujourd'hui dans cette idée du passé est très important. Ce n'est pas, il faut pas avoir honte d'aller creuser et d'aller s'inspirer par le passé. Pas dans toutes les choses. Ça veut pas dire qu'il faut être throwback.
Nostalgique.
Il faut pas. Non, ouais, c'est très différent parce que si vous écoutez cet album, ou même dans le titre Ice Cream, c'est pas nostalgique.
Hein. Pas du tout.
Et c'est pas du tout dans la mélancolie pour un sentiment. C'est pas la sentimentalité pour un temps qui n'existe plus. Non, ça regarde totalement vers le futur. Mais je reconnais que si j'écoute la poésie de Joni Mitchell, quand elle parle de l'amour et quand elle parle de la tristesse, si j'écoute Prince quand il parle du désir, si j'écoute George Michael quand il parle du sexe, eh ben excusez-moi, mais je peux me perdre pendant des jours en écoutant cette musique-là et en m'inspirant.
Alors, votre univers est très pop, Mika. Pourtant, vous avez une formation classique, hein, dans un établissement prestigieux à Londres. Vous avez appris le piano, le chant lyrique, ça se passait au Royal College of Music, un établissement londonien extrêmement prestigieux, je le disais. Le classique, c'est utile quand on fait de la pop?
C'est de la musique, c'est très important. Si vous me demandez vraiment mes auteurs-compositeurs ou des compositeurs qui sont les plus importants, je peux vous dire, eh ben, il y a Joni Mitchell, il y a John Baez, il y a Prince, il y a Kurt Weill,
oui.
Il y a Benjamin Britten, il y a Schubert, il y a Brahms, il y a Hindemith, il y a Stockhausen. C'est cette contamination, c'est quand je dis ces mots-là, c'est anti-snobisme, ce que je cherche à provoquer. C'est de dire qu'il y a quelque chose, même dans ces musiques-là, qui peuvent aller aux tripes. Quand je pense à la ballade pour une fille noyée de Kurt Weill, eh ben, je vous dis, si vous voulez comprendre la tristesse qui se manifeste délicieusement dans la musique, allez écouter ça. Si vous voulez comprendre, je sais pas, le désir, eh ben ça se trouve partout. C'est pas par hasard que Stockhausen fait partie d'un des personnages d'une des photos qui se retrouve dans le collage de Sgt Pepper de Beatles, parce que il a influencé énormément de Beatles. Le son de ce disque-là. Des voix aussi, des traitements des voix dans Sgt Pepper étaient influencés par Stockhausen et la manière qu'il traitait les voix. Bon, pour moi c'est juste fun. C'est comme si la boîte à chocolat, ben c'est pas juste du Milka, tout d'un coup il y a tous les goûts du monde.
Alors votre voix, justement, vous avez aussi travaillé cette voix qui permet de couvrir quoi, à peu près 4 octaves?
Moi, je n'ai pas travaillé, c'était par hasard. Moi, j'ai commencé à chanter, comme je vous ai dit, à 8 ans, et comme j'étais un soprano, j'ai étudié le bel canto, j'ai étudié toutes ces choses-là. Quand j'ai eu le changement de voix, ensuite j'ai commencé à réétudier de la même manière classique. Donc le falsetto, l'idée, moi je peux même, quand je m'amuse avec des amis qui sont des pianistes classiques, je chante des chansons baroques ou du 17e ou 18e de contre-ténor. Je vais pas le faire à l'antenne, mais je le fais pour m'amuser.
Pourquoi pas? Vous me donnez une idée, allez-y. Juste quelques notes, Mika.
Non, mais je le fais, par exemple, et les aria antiche, les choses comme ça. Mais évidemment, ça change la manière que je chante dans mes propres chansons. Aussi parce que je joue le piano très mal. Je suis un pianiste très basique. Et ce qui veut dire que je dois raconter ou je dois tout faire avec ma voix dans la mélodie, dans les techniques vocaux. Donc c'est pour ça que j'utilise toutes ces différentes parties de ma voix et je m'amuse avec parce que au piano, franchement, si je dois être honnête, je suis médiocre. You and I were really, really not so innocent. Consequences won't be easy. From here every road leads to regret. But if this ain't what you wanted, then why'd you even come here? It's 2 a.m. If this isn't what you wanted, then why'd you put a smiley in your message then? Backseat light off, window open, stereo. So kiss me.
leather seat catching on the stone. Vous savez, vous m'avez demandé de parler des voix lyriques ou de contre-ténor. Alors, avant de chanter ces notes-là, je vais vous dire que j'étais en train d'écouter un disque de Philippe Jaroussky.
Ah, qui est un grand
contre-ténor.
Et qui donne des cours aussi de voix.
Pardon ?
Qui donne des cours aussi de chant. Vous avez pris des cours ou de...
Mais bien sûr que je prends des cours tous les jours. Hein. Tout le temps, moi, je prends des cours.
Comment
moi,
est-ce que vous travaillez votre voix ?
Par deux profs de chant, par Skype. Parce que évidemment. Par Skype et par FaceTime, ça dépend du réseau.
Alors comment est-ce que vous travaillez votre voix alors justement, Mika, vous faites des vocalises, vous faites des...
Pour moi, la santé de la voix, elle est extrêmement importante. Les cordes vocales sont toutes petites, mais elles sont, c'est un muscle avec, c'est un des plus importants muscles de nos corps. Hein. Le muscle qui est le plus impressionnant à mon avis, c'est la langue. Elle peut tout faire, c'est comme une sorte d'extraterrestre. Si on devait isoler ce muscle-là, et on voit toutes les formes que cette langue peut prendre, c'est un muscle incroyable. Si un jour on a des robots qui peuvent fonctionner ou bouger comme la langue, eh bien je vous dis que là on a trouvé le secret de la vie, hein, le secret de la vie physique de l'intelligence artificielle. Et à part ça, je ne sais pas ce que je suis en train de vous raconter, mais les cordes vocales, des petits muscles avec beaucoup de muscles autour, je suis... Très attentif à la santé des cordes vocales, mais aussi à l'entraînement des cordes vocales. Et quand je parlais de Philippe Jaroussky, la raison pour laquelle j'adore sa voix, c'est parce que on a presque l'impression que quand il est en train de chanter, il a une ouverture hallucinante dans son larynx et dans toute la musculature qui entoure de la mâchoire, de partout. C'est très, très, très ouvert. Et il monte très haut. Et normalement, quand on monte très haut, on a beaucoup de tension. Eh ben, le secret de quelqu'un comme Philippe Jaroussky, c'est qu'on sent pas la tension. Le support du diaphragme, le corps, il est en train de transpirer. Mais tout autour, il n'y a pas de tension. C'est fluide. Quand on entend une autre grande voix, comme la voix mythique de Pavarotti, quand il montait là-haut, il n'y avait pas de tension. Et donc c'est cette idée-là de ne pas avoir de la tension quand on est en train de chanter. Et c'est très difficile à faire quand on est en train de danser, quand on est en train de bouger, basculer la tête à gauche et à droite, et de garder une voix qui n'a une gorge qui n'a pas de tension pour pouvoir chanter d'une manière clean. C'est très important. Quand on écoute Johnny Hallyday,
oui,
eh ben c'est la même chose. Quand lui chantait avec cette énorme voix, il y avait beaucoup de résonance, et même s'il y avait de la tension dans l'émotion et dans le corps, vocalement, il n'y a pas de tension.
Mais alors comment vous faites justement pour pouvoir chanter comme ça? C'est une question d'entraînement, c'est une question d'habitude.
Je m'entraîne tous les jours, je m'entraîne tout le temps, et c'est un petit ok, j'aimerais tellement avoir le corps d'un athlète, mais je dois choisir ou le corps d'un athlète où je passe mon temps en train de préserver ma voix. Je préfère préserver ma voix pour l'instant.
Mais justement,
même si je me regarde dans le miroir, je me dis putain, ça serait bien de passer un peu plus de temps sur mon corps et un peu moins de temps sur la voix. Mais ça va.
Mais chanter, c'est un exercice autant sportif qu'artistique.
Ouais, mais c'est du sport d'une différente manière. C'est pas du sport. Ouais, c'est un process physique, et il faut qu'il se dresse. Ouais.
Mais dresser, ça fait deux fois que vous utilisez ce mot. C'est un mot extrêmement violent, Mika, se dresser.
Et on se dresse. Hein.
On s'éduque pas, on se dresse.
Vous lisez combien de livres par semaine ?
Par semaine, 5 ou 6.
Mmh. Ah ben, ça, c'est du dressage intellectuel.
Vous voyez ?
Et il y a une violence associée à ce dressage intellectuel. Je suis en train de regarder là, hier soir, parce que je viens d'arriver du Mexique. Donc, je regardais hier ce documentaire qui est un petit peu de la propagande, mais assez intéressant, sur Bill Gates. Et lui, c'est un fou. Il lit quelque chose comme 25 ou 35 livres par mois. Et des livres qui sont très, très, très intenses. Je pense qu'il lit entre 150 et 200 pages par heure. Mais en les lisant et en les stockant aussi dans sa mémoire. Ça, c'est du dressage, non? C'est, et aussi, je monte à cheval. Je monte à cheval, c'est assez récent. J'ai toujours voulu monter à cheval, j'ai jamais pu le faire. Et récemment, j'ai vraiment étudié, j'ai décidé de, et j'ai réalisé que c'est un petit peu comme des chiens. Si on veut avoir des beaux chiens, eh ben on pense qu'on doit dresser des chiens, mais non, on doit se dresser nous-mêmes pour pouvoir avoir des chiens qui se comportent bien. C'est la même chose avec les chevaux. C'est pas qu'on dresse les chevaux. En fait, on doit être dressé pour pouvoir avoir un rapport avec un cheval.
C'est une question de discipline.
Ouais, c'est une question de discipline, mais ça nous rend heureux, hein.
Qu'est-ce que vous avez retiré, Mika, de l'expérience The Voice ? Vous avez coaché des jeunes, mais est-ce que vous, ça vous a appris des choses ? Est-ce que ça vous a servi à quelque chose ?
Ça m'a amusé.
C'est déjà ça ?
Oh, mais s'amuser, c'est important, hein. Spécialement dans ce métier-là où la plupart du temps, on peut se faire chier. Et, sauf quand on est sur la scène et les choses sont claires. Parce que sur la scène, finalement, on est libre. Mais le reste du temps, on peut s'énerver, hein. Et c'est pas une exagération, je suis pas en train de le dire juste pour dire quelque chose, mais et donc ça m'a amusé. Je pense que je sais pas pourquoi j'ai moi quand je l'ai fait, je me suis dit peut-être je fais un an, peut-être je fais deux ans, j'en ai fait six. Et je pense que c'est parce que j'habite pas en France. Ok, alors je vous explique pourquoi. J'ai pu arriver, j'arrivais de l'aéroport, j'allais au studio, j'enregistrais. Je terminais, je dormais à l'hôtel, le matin après, à 9h du matin, 8h du matin, bam, j'étais à l'aéroport parce que je devais aller continuer la tournée ou aller continuer à travailler. Et ça me donnait un recul sur une émission qui était déclinée sur 18 épisodes par an. Donc, c'était une présence assez conséquente. Mmh. Mais moi, je la sentais pas, cette présence. Donc, ça voulait dire que je sentais pas aussi la conséquence de ce que je disais. Je me mettais là-bas dans le studio et je parlais. Je m'amusais et je m'en allais. Et ça m'a gardé ça a pu préserver la légèreté avec laquelle je me présentais sur cette émission. J'étais pas complexé. Et ça m'a beaucoup aidé. Donc, aussi, je suis reconnaissant du fait que j'ai pu me raconter. J'ai pu parler musique et parler chant. Évidemment, dans un concours de chant, dans un télécrochet qui est commercial, mais j'ai pu le faire sans penser au commerce, sans penser à la mécanique.
Mais artistiquement.
Et artistiquement, C'était amusant et c'était toujours en par exemple, j'ai fait The Voice et je vous raconte une histoire. Je faisais une tournée sur mon dernier album et la tournée s'appelait The Heaven Tour. No place in heaven, pas de place au paradis. Donc j'ai dit s'il y a pas de place au paradis pour les gens comme nous, je parlais à mes fans, venez et on va créer notre propre endroit. C'était l'idée. Et je suis arrivé à Bercy. Et je me suis dit, tu sais quoi, merci. Il y a beaucoup de gens qui vont venir. J'avais déjà fait plusieurs zéniths à Paris. Je me suis dit, ok, je dois faire quelque chose de beau. Et j'étais aussi conscient qu'il y avait beaucoup de gens qui m'avaient vu sur The Voice. Et donc, j'ai dit, je vais faire quelque chose de différent. Eh ben, j'ai inventé un nouveau show pour une nuit. J'ai dit, c'est une sorte de lettre d'amour à Paris après le Bataclan. J'ai dit, Paris, je t'aime. Et je vais parler de ça. Et j'ai testé toutes les différentes manières que j'aime parier. Ça m'a coûté plus que tout un an et demi de mon cachet sur The Voice. Pour une nuit. Un show qui était totalement sold out. Plus qu'un an et demi pour The Voice. Ensuite, j'ai fait le truc de rugby au Stade de France. Ça m'a coûté non seulement ce que la prod m'a payé pour faire la performance au Stade de France, mais en plus, presque un tiers de mon cachet de l'année, presque la moitié de mon cachet de l'année de The Voice, je l'ai mis dans la performance au Stade de France pour 20 minutes. Alors artistiquement, qu'est-ce que ça m'a apporté ? Ça m'a apporté beaucoup de liberté artistique pour faire des gestes artistiques qui n'étaient pas possibles avant. Et je les ai investis d'une manière ou une autre. Pour moi, c'est bien de regarder les choses dans la totalité de ça. Non seulement est-ce que ça m'a apporté un public très large qui est venu à mes concerts, et j'ai pu réinvestir dans ces concerts pour présenter quelque chose qui n'aurait pas été possible. What comes up must come down. Go!
care if you lie, you mean. Don't let me down, my love, 'cause I've been high for so long that I don't know how to come down. Don't try, I don't even care if you lie, you mean. We're gonna stay high.
Merci. Merci beaucoup, Mika. Vous serez en concert, je le précise, à partir du 15 novembre. Ça commence au Zénith de Pau, le 16 à Toulouse, le 18 à Aix-en-Provence, le 19 à Saint-Étienne, le 15 décembre à Lille, le 17 à Dijon, le 19 à Bordeaux, le 20 à Nantes et le 22 décembre à Paris, à l'Accor Hotel Arena. On s'arrête pour les fêtes et on reprend ensuite la tournée le 25 janvier à Niort. Je rappelle que l'album My Name is Michael Holbrook est disponible chez Barclay, un album que vous pouvez d'ailleurs gagner en jouant sur la page Facebook de l'émission et en répondant par message privé à la question suivante. Quelle ville italienne a donné son nom à une des chansons de ce nouvel album? Répondez donc, que le meilleur gagne. Comme d'habitude, dans un instant, l'info sur RFI. On se quitte avec Stay High. À demain et vous m'en direz des nouvelles.